Nous lisons aujourd'hui dans l'Ancien Testament, un des textes qui nous sont proposés pour ce dimanche, dans le livre du prophète Jonas, le chapitre 3, c'est-à-dire les 10 versets de ce chapitre. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message que je te communique. » Alors Jonas se leva et se mit en route pour Ninive, selon la parole que le Seigneur lui avait adressée. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la parcourir. Jonas fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera renversée. » Les habitants de la ville crurent en Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus grand au plus petit, revêtit la tenue de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un habit de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans Ninive ce décret, par ordre du roi et de ses ministres, que les êtres humains ainsi que le gros et le petit bétail ne mangent ni ne boivent quoi que ce soit. Les êtres humains et les bêtes doivent se couvrir d'habits de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi, Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Le prophète Jonas est un petit prophète, paraît-il. Ces 4 chapitres sont toujours trop courts pour faire de lui un grand prophète, quel dommage, mais ils sont toujours trop longs pour les lire en entier. Mais j'espère que vous avez l'histoire du prophète Jonas en tête, j'en rappellerai quelques aspects quand même en cours de route. Ce n'est pas désagréable, même si nous n'en avons qu'un épisode, de se laisser entraîner dans un conte oriental comme celui-ci. Même si notre propre logique n'est pas du tout celle que nous rencontrons ici. Je parle de la logique de notre époque, celle que nous avons de réagir, de réfléchir, et celle qu'avaient ces gens si longtemps avant nous. Mais, comme dans tous les textes bibliques, l'intérêt d'un récit est surtout de s'identifier au personnage. Qu'ils soient en mauvaise posture ou non, qu'ils soient dans leur bon droit ou qu'ils aient tort, qu'ils s'en sortent admirablement ou bien qu'ils échouent. Peu importe, puisqu'on nous les présente comme des personnages à incarner, voire des parties de nous-mêmes à identifier et assumer. Dans le cas particulier de Jonas, il y a une contestation inévitable devant un sale caractère qui préfère un Dieu qui punit à un Dieu qui pardonne. Il est comme ça, Jonas. Il était parti pour administrer une punition, il avait bien compris sa mission et apparemment il y tenait. L'élan qui était le sien face à ce projet plus que vigoureux aurait dû normalement le propulser suffisamment loin, même avec une ou deux petites bifurcations imprévues. Il courait vite en partant. Mais les caprices d'un Dieu qui suspend sa colère pour pardonner, il n'y était pas prêt, ça l'a arrêté net. L'histoire de Jonas vient peut-être aussi chatouiller notre propre besoin d'ordre, quitte à ce qu'il y ait quelques coups de trique au passage. La corruption, l'entêtement dans le mal, comme à Ninive, ça se corrige, énergiquement même. Jonas avait accepté difficilement, vous vous en souvenez, après 3 jours de sous-marin, étrange croisière. Mais finalement, il s'était résolu à nettoyer les écuries. Voilà pour la mission et la motivation. Il lui a fallu du temps, mais une fois parti, il part. Cette histoire dit bien notre résistance à une parole qui nous donne une mission, c'est-à-dire une vocation, qui vient nous déranger dans notre oisiveté ou notre désarroi, que faire, et qui nous donne une vocation même si elle est provisoire ou partielle ou en attente de nouvelles affectations. Le pire est de renoncer à l'idée qu'on s'est faite de Dieu. Quand Jonas s'enfuit, c'est pour s'éloigner de ce Dieu qui n'a pas les traits qu'il avait imaginés. Jonas poursuivait en réalité son propre projet punitif sous le regard implacable du Dieu qui va avec. Et il avait dû s'en inventer un autre. C'est du travail. La durée de 3 jours pour y parvenir indique que finalement, pour faire une chose comme celle-là, c'est aussi difficile et aussi long d'accoucher d'une nouvelle image de Dieu que de sortir d'un tombeau vide. Il faut au moins 3 jours. Il faut se demander quelle est la découverte de Jonas dans tout ce récit. L'hésitation de Jonas nous le montre coincé entre 2 dangers aussi peu enviables l'un que l'autre. Il n'a pas trouvé un petit coin tranquille pour fuir ses responsabilités. On ne trouve rien de confortable dans toute cette histoire. Entre Ninive d'un côté, un repoussoir absolu, une terre étrangère aux croyances et aux mœurs incompatibles avec les siennes, et de l'autre côté, le fond de la mer qui représente pour les Hébreux une sorte d'enfer, un lieu où on ne doit surtout pas mettre les pieds. Jonas avait un choix détestable. C'est peut-être ce qui explique son humeur. Ce serait sûrement la nôtre également si nous avions le choix entre la peste et le choléra. Heureusement pour Jonas, même s'il ne le comprend pas, Dieu est présent dans les 2 endroits. Si bien qu'il peut fuir d'un côté ou de l'autre, il se retrouvera toujours en face de quelqu'un qui le protège ou lui promet un avenir, même s'il ne s'en voit lui-même aucun, en tout cas pas sur le moment. 2 dangers donc aussi redoutables d'un côté, une civilisation étrangère, honnie, jugée mécréante, mais qui est aussi capable de changer radicalement de direction, on le voit bien chez les Ninivites, et à peu près aussi rapidement finalement qu'un peuple à la nuque raide, après tout. Et Dieu voit cela d'un très bon œil parce qu'il s'adresse à l'humanité entière et pas à ce que représente seulement Jonas. Il était donc présent et actif déjà dans cette ville avant même que Jonas y mette les pieds. N'en déplaise à Jonas. Et puis dans le ventre d'un poisson géant, votre vocation en ce bas monde est d'être normalement digéré, pas recraché intact sur la terre. 3 jours dans une sorte de Léviathan n'ont pourtant rien changé pour Jonas, même pas son humeur. Il renâclait avant et il sera fâché après, jusqu'au bout. C'est dire à quel point son séjour l'a préservé au point que même son humeur ne change pas. Rien n'a changé pour lui. Dieu aussi était présent dans ce poisson géant. Dieu protège Jonas tout en s'employant à le mettre en difficulté, pas pour le faire échouer ou lui faire du mal. On le voit bien, il est protégé des 2 côtés. Et il ne lui arrive rien, à part son humeur. Mais peut-être pour le faire sortir de l'une de ses nombreuses zones de confort, comme on dit, la plus redoutable de toutes, se faire un Dieu à son image, c'est-à-dire parfois pas terrible, lui prêter ses traits, son humeur massacrante, donc potentiellement massacreuse, et reconnaître finalement que l'on n'est protégé par rien, ni par l'appartenance à un peuple choisi qui passe son temps à rompre l'alliance, ni par une loi reçue de Dieu en personne, surtout quand on met autant d'applications à ne pas la suivre. Pris dans ce maquis d'obligations qui le met en relation avec un Dieu sévère et procédurier, un casse-pied donc, Jonas ne peut pas comprendre qu'il s'est peut-être bien trompé sur Dieu, à défaut de s'être trompé de Dieu, et il devra voyager beaucoup pour comprendre ce nouveau Dieu qui pardonne à Ninive. Autant dire un Dieu qui gracie les condamnés à mort. À la fin du conte, au chapitre 4, si vous relisez après les lignes que nous avons lues tout à l'heure, Jonas n'est toujours pas convaincu. Et le livre s'arrêtera là-dessus. On peut penser d'ailleurs à un échec. Tous les prophètes, normalement, même s'ils renâclent comme Jonas, finissent par être convaincus que c'est une bonne chose d'aller dire ce que Dieu leur envoie dire, pas lui. La prophétie s'achève sur des points de suspension. On serait tenté, en tout cas, de les rajouter nous-mêmes, tellement l'impression que ce récit n'est pas fini nous prend dans les dernières lignes. Et oui, il faut mettre des points de suspension à cette histoire, et figurez-vous que c'est justement ça, la bonne nouvelle. Dans le sens évangélique du terme, bonne nouvelle. Un avenir s'ouvre où Jonas pourra se donner le temps de renoncer au Dieu vindicatif qu'il avait fabriqué, apprivoisé, et qui lui plaisait finalement, et faire place à celui qui pardonne après nous avoir accompagnés et protégés là où personne ne veut mettre les pieds. Ces points de suspension sont nécessaires à un Jonas qui ne veut pas en démordre, même à la fin. Et à la fin, justement, Dieu fait pousser un arbre, et en une nuit, et il ordonne en même temps à un ver de ronger cet arbre pour le faire mourir. C'est que Dieu est changeant aussi, il a bien le droit d'avoir ses humeurs, après tout. Il apparaît comme celui qui exige la justice, et personne ne voudrait sérieusement y renoncer, à commencer par nous-mêmes. On veut qu'on nous fasse justice, évidemment, même si Jonas a le cœur assez dur pour ne voir dans cette histoire que l'âpreté du châtiment et oublier la nécessaire demande de justice qui va avec. Cette justice, tout le monde la souhaite, mais pas n'importe comment. Et puis, même aux yeux de la justice, un condamné peut être gracié, n'est-ce pas, de temps en temps. Quand on lit cette histoire et qu'on la compare avec la destruction de Sodome et Gomorre, deux villes qui n'ont pas eu la chance de Ninive, mais peut-être pas le même comportement non plus, on se dit que décidément la manière d'envisager l'action de Dieu ou son pouvoir évocateur, éveilleur, libérateur, a mis autant de temps à s'imposer dans les textes de la Bible que Jonas pour changer d'avis et sortir de son humeur massacrante. Pourquoi Ninive s'en sort mieux que les deux autres villes? On peut donner l'explication des sources différentes qui forment les livres de la Bible. Vous savez, ce sont les explications des exégètes qui sont dans les bas de page de vos Bibles d'études très épaisses et peu maniables et qui ne vous font pas avancer nécessairement sur la compréhension du passage. On ne comprend pas, même si on a ces explications-là, pourquoi ceux dont le but était de sélectionner les livres canoniques ont laissé dans le même recueil des textes qui se contredisent à ce point. On bute quand même, à un moment ou à un autre, sur cette question. Peut-être que ces auteurs ont justement fait exprès de nous laisser ces deux choses incompatibles, l'une en face de l'autre, ou pas très loin les unes des autres dans le même recueil, pour montrer que les idées sur Dieu changent de temps en temps, et qu'eux-mêmes étaient déjà témoins de ces changements en leur fort intérieur, et qu'ils pouvaient être très utiles aux lecteurs du futur, donc nous, de refaire pour eux-mêmes ce même cheminement, et que c'est exactement pour ça qu'ils l'ont fait, peut-être bien. Abandonner un Dieu légaliste qui applique le règlement, pour laisser place à un Dieu qui sait que nous n'avons aucune chance s'il faut appliquer le règlement. La suite de ce changement est bien connue. Elle culminera un peu plus tard, beaucoup plus tard même, dans la recommandation de Jésus de prier pour ceux qui nous persécutent et d'aimer nos ennemis. On avait la chance de quitter un règlement un peu implacable. Y avons-nous gagné au change? Pas certain. Aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, ce qui est une autre paire de manches, bien sûr. Mais en tout cas, justice d'un côté et clémence vont désormais rester face à face, toujours, dans tous les textes qui suivront. Ce sera toujours comme ça, dorénavant, comme pour s'équilibrer l'un l'autre, sans qu'aucun des deux termes ne disparaisse. La question que Dieu pose à Jonas, pas dans les lignes que nous avons relues, mais à un moment où ils reprennent leur conversation, qui est assez amusante, « Est-ce que tu fais bien de te fâcher, Jonas ?» Cette question n'est pas une provocation, elle est fondamentale. Elle dit à Jonas, et donc à nous aussi après lui, « Est-ce que tu ne vois pas la bonne nouvelle qui vient de remplacer la mauvaise ?» Le pardon qui chasse la sanction implacable, la deuxième ou énième chance qui t'est offerte, est-ce que tu vas te décider à la voir? Est-ce que tu fais bien de te fâcher? Il ne reste plus qu'un seul abri à Jonas, après le poisson géant, c'est ce petit arbre qui va bientôt mourir. Eh bien, c'est ça l'évangile de Jonas. En matière d'avenir ouvert, de bonnes nouvelles d'une deuxième, troisième, énième chance d'être gracié, nous ne sommes décidément à l'abri de rien. Et c'est plutôt bien. Amen.